Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55 pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching? La dispute. Ce soir, la musique. Ce soir, Emmanuel Giuliani et Emmanuel Dupuis se font face à notre sommaire, un opéra Don Carlo de Giuseppe Verdi, mise en scène de Robert Carsen, direction musicale Daniele Calegari. C'est à l'Opéra National du Rhin jusqu'au 10 juillet. Un DVD d'un autre opéra, Janis Kiki de Puccini, mise en scène de Woody Allen. C'est en DVD chez Sony Classical. Et puis un double CD également, notre programme Shostakovich à l'ombre de Staline. Symphonie numéro 5, 8 et 9 et suite pour Hamlet, dirigée par Andris Nelson chez Deutsche Grammophon. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des places de cinéma pour aller voir le film Insiang de Lino Broca qui est sorti hier dans les salles. Enfin, nous avons rendez-vous avec la chanteuse et comédienne Camélia Jordana qui est toute cette semaine l'invitée de la dispute. Et nous ouvrons cette émission avec une de nos belles maisons d'opéra en région, l'Opéra National du Rhin, qui a noué une fidélité réciproque avec le metteur en scène canadien Robert Carsen, un compagnonnage au long cours qui donne lieu à une nouvelle production de Don Carlo de Verdi, grand opéra à la française en 5 actes, mais ici dans sa version italienne en 4 actes. C'est sur un livret de Joseph Méré et Camille Duloc qui a été traduit en italien. C'est d'après la tragédie de Friedrich von Schiller. C'est un opéra qui avait été créé en 1867 à l'Opéra de Paris, remanié donc pour la scène italienne en 1884. C'est la version de Milan donc qu'on entend à l'Opéra National du Rhin, une action qui débute en 1559 dans la forêt de Fontainebleau, durant la négociation de la paix entre la France et l'Espagne. Et au terme du traité, l'infant d'Espagne, Carlo, doit épouser Élisabeth de Valois, la fille du roi de France, qui était, vous n'ignorez pas Antoine, Henri II à ce moment-là. Et Carlo vient incognito parce qu'il aimerait bien quand même voir à quoi ressemble Élisabeth. Ce qui se passe au cours d'une chasse et le coup de foudre est mutuel. Tout va bien ? Ah non, mais non ! Le roi d'Espagne, Philippe II, qui est veuf, veut épouser lui-même Élisabeth, imaginez-vous. Bon, on écoute un air de la presque toute fin de cet opéra, on va entendre justement Élisabeth. Bon, nous devons interrompre Elisabeth et nous en excusons bien sûr. Mais prenons le temps de parler de cette nouvelle production de Don Carlo à l'Opéra National du Rhin. Je commence avec vous, Emmanuel Giuliani.
Si vous voulez.
Mais avec plaisir.
De quoi voulez-vous qu'on parle d'abord? La mise en scène?
Ah, et c'est vous qui choisissez.
C'est moi qui choisis, c'est merveilleux. Oui, bah, peut-être la mise en scène de Robert Carsen, comme vous l'avez dit, un habitué de l'Opéra du Rhin. Alors là, le dispositif scénique est on ne peut plus simple, assez impressionnant. Tout noir, une immense boîte noire avec une perspective d'ailleurs bien étudiée, donc ça donne vraiment une profondeur très importante. Donc une boîte opaque mais qui se troue de temps en temps de portes, de grandes portes qui s'ouvrent ou qui se ferment, qui dévoilent ou qui cachent des silhouettes. Et puis c'est tout. Quelques accessoires mais à peu près tout. Donc un décor unique. Très, très impressionnant, très sombre, qui situe vraiment la volonté, en tous les cas, de Robert Carsen, de faire un peu l'œuvre au noir autour de ce Don Carlo, comme vous l'avez dit en faisant le résumé de l'action, enfin de ce qui se passe avant que ne se lève le rideau sur cette version italienne. Voilà, on est sous le signe de la désolation, des amours contrariés, du pouvoir autoritaire, des complots, de la mort. Enfin, c'est un opéra extrêmement sombre. C'est un des plus beaux opéras de Verdi. C'est vraiment une musique inspirée de bout en bout, des airs sublimes, une orchestration magnifique, des ensembles incroyables. Donc ce dispositif scénique très, très sobre, très impressionnant mais très sobre, appellerait une mise en scène qui donne un peu à voir, à s'émouvoir. Et là, c'est pas tout à fait le cas, parce que la mise en scène est un peu minimaliste, avec une direction d'acteur qui, sans être mauvaise, est assez insignifiante, ce qui fait que chacun joue un peu son jeu. Ce sont de bons comédiens chanteurs, donc de personnes on se dit « Oh là là, là vraiment, il est complètement en dehors des clous et de la crédibilité ». Mais ce ne sont pas non plus des bêtes de scène au sens dramaturgique du terme. Donc de personnes on se dit dramatiquement, théâtralement en tous les cas, « Oh là là, lui, il crève l'écran ». Donc ça fait une honnête moyenne, ce qui est un peu dommage parce que cet ouvrage, en tout cas, demande plus et pour la confrontation entre les personnages, d'autant que Robert Carsen, on ne va pas dire, je pense, hein, vous êtes d'accord, Emmanuel, ce qu'il change dans le scénario, oui. Parce qu'autrement, ça, le seul petit suspense qu'il y a dans cette mise en scène serait éventé. On adhère ou on n'adhère pas d'ailleurs, oui. Mais bon, c'est un peu dommage qu'à ce décor aux allures un peu soulagesques ou soulagiennes, je ne sais pas comment il faudrait dire, dans ces jeux de noir assez impressionnants, il ne se passe pas plus de tension et d'urgence dramatique.
Emmanuel Dupuis, sur cette mise en scène de Robert Carsen.
Non, je suis assez d'accord avec Emmanuel, mais moi finalement j'ai eu le sentiment d'assister à un spectacle à l'économie, avec un décor unique et... Je pense que pour un grand opéra comme Don Carlo, qui est une grande fresque historique, alors là en quatre actes, bon là moi je n'aime pas beaucoup cette version en quatre actes qui crée des raccourcis dramatiques un peu trop rapides qui ne rendent pas l'action
réduisent l'ampleur du drame.
Voilà, qui réduisent l'ampleur du drame et qui ne creusent pas assez la psychologie des personnages, je trouve. Mais bon, ceci étant, voilà, c'est quand même trois longs actes. C'est une grande fresque historique, un grand opéra. C'est il faut jouer le jeu, il faut faire du spectacle et dans un décor unique où il n'y a aucun changement d'atmosphère, aucun effet de surprise. Ben ça ne marche pas, tout simplement. Et d'autant qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Emmanuel, la direction d'acteur est assez minimaliste. Elle ne nous apprend pas grand-chose de la psychologie des personnages. Alors voilà, on fait confiance aux dons d'acteurs, de chanteurs qui sont assez inégaux parce que je trouvais que Don Carlo, Andrea Carré qui joue Don Carlo, qui joue et chante Don Carlo, a des dons de comédien assez limités. Bon, il faut dire qu'on l'a...
Il n'est pas aidé par son costume,
voilà,
son espèce de...
c'est ce que j'allais dire.
Il a un pull, sweatshirt qui plissote, qui grigne et qui gode, voilà. Comme dirait Fedo.
Il a un pull, effectivement, et un pantalon difforme. C'est sûr que ça n'aide pas pour incarner
pour un personnage. Pour la
statue. Un romantique, ouais. C'est sûr.
Voilà. Donc voilà, sentiment d'économie. Ça est...
Mais un peu d'ennui à vous entendre, hein, tous les deux.
Moi, oui. Oui,
d'accord.
Et ennui aussi musical.
Alors, oui,
parce que, bon, voilà, Don Carlo, c'est un des opéras les plus ambitieux et les plus compliqués à monter du répertoire. Et si on n'a pas un chœur et un orchestre exceptionnel, Ben ça le fait pas, quoi. Or là ce soir-là, la représentation à laquelle j'ai assisté avant-hier, le chœur montrait quelques défauts d'unité, l'orchestre aussi, il n'y avait pas une attaque en place.
C'est le chœur de l'Opéra Nathan Durin et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg,
exactement. Il y avait un fini instrumental tout à fait relatif, et puis une direction musicale que j'ai trouvée, moi, tout simplement, amorphe, c'est-à-dire
Daniele Caligari, sans
véritable influx dramatique, sans souffle. Là aussi, le souffle de la grande fresque historique, moi j'ai attendu toute la soirée et il n'est pas venu. Donc moi finalement, je suis sorti de cette représentation en me disant, quand on n'a pas le moyen de monter dans Carlo,
mieux vaut s'abstenir.
Et voilà, c'est le sentiment que j'ai eu, moi.
Bon, et vous, Emmanuel Giuliani ?
Musicalement, j'ai pas du tout eu le même sentiment le jour de la première, parce que j'ai beaucoup aimé, au contraire, la direction de Daniele Caligari. À vrai dire, j'en ai été la première étonnée, parce que j'ai souvenir du Trouvert d'il y a quelques mois à l'Opéra Bastille, où j'avais trouvé que vraiment il dirigeait, pour être vulgaire, comme une savate. Et là,
vulgarité
très transculture, mais je sais à quel micro je suis. Donc
non,
mais c'est
votre classe naturelle, surtout.
Et là, au contraire, ce jour de la première, il y avait beaucoup d'influx nerveux, beaucoup de recherches de nuances. Ça, une grande différenciation entre les passages très intimistes, très dépressifs, notamment dès que Carlo est là, parce que c'est vraiment un personnage qui porte le poids de son spleen sur les épaules du début à la fin, et donc il crée des couleurs orchestrales magnifiques à ce moment-là. Alors il est vrai que l'orchestre, la patte orchestrale par moment n'avait pas la richesse, et on sentait à le voir diriger qu'il en demandait plus, et que voilà, l'orchestre pouvait lui donner ce qu'il pouvait.
Mais
j'avais l'impression, en tous les cas, que ce n'était pas du tout de la faute du chef, qui a créé vraiment une grande arche du début à la fin. Et contrairement à la représentation à laquelle vous avez assisté, j'ai eu d'excellents chœurs. Et notamment, j'ai trouvé que les femmes avaient des voix très jolies, très fraîches, très en place et nuancées. Au moment de la chanson Sarrazine, où souvent c'est un festival de timbres aigrelets, et là, pas du tout. Donc,
bon, soit vous êtes trompé de maison,
non, mais
c'est le spectacle vivant.
Les
choses peuvent changer aussi.
Absolument.
Mais ceci étant, bon, sur la mise en scène, nous sommes d'accord.
Oui, oui. Vous avez évoqué Andrea Carré pendant Carlo. On a entendu Elsa van den Ever, qui est Elisabeth. Sur le plateau vocal, il y a beaucoup de rôles dans Carlo, c'est compliqué aussi.
Donc Andrea Carré, c'est une belle voix de ténor, c'est à la fois avec quelque chose d'à la fois solaire et corsé, mais le problème c'est que il n'a pas d'aigu, donc c'est quand même.
Aïe, oui, c'est gênant.
Vous
confirmez Emmanuel Giuliani.
Oui, et il devait en avoir moins mardi que dimanche, voilà. Parce que la fatigue est dense, si on peut dire. Oui, donc, mais c'est un beau timbre.
C'est un beau timbre.
Voilà. Mais c'est pas un rôle pour lui. Oui, voilà, c'est un peu surdimensionné, sûrement.
Alors, c'est Elisabeth.
Elsa van den Ever que l'on vient d'entendre. Alors, c'est un grand soprano, beau soprano, vraiment taillé pour ses rôles verdiens. J'ai trouvé effectivement très émouvante au dernier acte, dans le passage que l'on a entendu tout à l'heure. Même si, bon, elle n'a pas les nuances infinies qu'ont les plus grandes des Elisabeth qu'on a entendues, mais malgré tout, bon, c'était quand même une interprétation assez touchante. En revanche, Elena Žitková, qui chante La princesse Eboli, c'est pas une bonne Eboli, parce qu'elle a pas le cantabilé opulent qu'il faut pour ce genre de rôle. Dans Fatal, le mardi soir encore, elle n'y arrivait pas. Hein, donc ça, c'était une grosse déception. Stéphane Milling, qui chante Philippe II, rôle très important aussi. Belle voix de basse, mais qui n'a pas le legato de violoncelle qu'il faut avoir pour chanter le grand air de Philippe. Si vous voulez, on a l'impression qu'à tous, il leur manque un petit quelque chose. Quoi, voilà. Sauf Tassis Christoyanis, qui chante Posa. Alors ça, c'est vraiment un grand artiste. Ce n'est pas une voix très puissante, mais c'est une belle voix de baryton, et surtout avec un art du phrasé, d'une élégance permanente, et en même temps une fougue, une jeunesse. Vraiment, là, le personnage existait à la fois à travers le chant et à travers l'incarnation scénique.
Emmanuel Giuliani, petit tour de plateau vocal pour terminer aussi avec vous.
Oui, alors sur Tassis Christoyanis, je partage tout à fait l'avis d'Emmanuel. Il a vraiment, en plus, une très très belle ligne de chant, extrêmement intelligente, ce qui fait qu'on a l'impression de vivre avec lui toutes les hésitations que peut avoir Posa. Finalement, Philippe II me fait confiance. Vais-je aller de son côté? Mais je suis amie avec Carlo. Mais Carlo, quand même, il faudrait qu'il se secoue un peu et qu'il aille enfin défendre la Flandre dont je lui fais la publicité. Voilà. Et toutes ces choses que je dis de manière évidemment beaucoup trop schématique, on le voit en train de penser et d'éprouver pendant qu'il chante. Et ça, c'est vraiment là, en effet, la caractéristique d'un artiste très fin, très sensible. Le soir de la première, Elsa van der Even a fait, a fait vraiment, notamment une deuxième partie absolument somptueuse. Et ce qui était très impressionnant par rapport à ses collègues, c'est l'ambitus de la dynamique de sa voix. Elle pouvait vraiment avoir des aigus, mais immense, qui remplissait le théâtre de bas en haut, et au contraire avoir un fil de voix très très bien projeté, donc on entendait, donc ça c'était très bien. Sur les autres rôles, je suis bien de votre avis, j'aime beaucoup Elena Žitková, mais c'est sûr que c'est que Eboli...
C'est une très bonne Kundry.
Oui, mais absolument, une très bonne Kundry, magnifique Judith dans le château de Barbe Bleue, mais ça c'est pas pour
mais
elle.
Mais ça n'est pas une bonne Eboli.
Bon, allez, avis mitigé, mais on a toujours envie quand même de savoir ce qui se passe à l'Opéra National du Rhin en ce moment, Don Carlo de Verdi, et c'est juste jusqu'au 10 juillet.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et nous parlerons tout à l'heure de Puccini, cette fois en DVD avec Janis Kick, qui mise en scène Woody Allen pour une sortie donc en DVD. On retrouvera avant cela l'invité de la dispute, Camilla Jordana. On évoquera aussi le double CD que le chef Andris Nelson consacre à Shostakovich sous l'ombre de Staline. À la lumière d'Antoine Guillot, la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Dans le livre Béla Bartok de David Cooper, paru récemment aux États-Unis, on apprend, relève une brève de l'Obs, que le compositeur au cœur pur a écrit la plus grande partie de son château de Barbe Bleue dans un camp de nudistes vêtus de ses seules lunettes de soleil. Sont-ce ces mœurs étranges qui ont inspiré ce curieux rapport de l'inspection générale de la ville de Paris, qui avait déjà fort ému ici même il y a deux semaines, Anna Sigalevitch, supprimer les cours de musique individuelle dans les conservatoires municipaux pour limiter les risques d'agression sexuelle. Le moins que l'on puisse dire, constate Cécile Beaulieu dans Le Parisien, c'est que cet argument, d'autres différences sont par ailleurs évoquées, ne passe pas chez les enseignants. Dans le collimateur, des centaines de professeurs qui officient dans les conservatoires, un rapport de l'inspection générale de la ville, intitulé « Mission de prévention de signalement et de traitement des risques d'infractions sexuelles sur des mineurs par des agents de la ville. Le texte décline sur 78 pages, études de terrain et préconisations. Dans celles qui se rapportent au conservatoire, on peut ainsi lire qu'il convient de limiter les cours individuels porteurs de risques de dérapages importants, notamment du fait d'une relation maître-élève qui s'inscrit dans la durée, de rapports de proximité et de séduction et d'un contexte musical marqué par la banalisation des relations sexuelles entre maîtres et élèves, particulièrement en référence aux relations entretenues par d'illustres musiciens ou musiciennes comme Hélène Grimaud, célèbre pianiste, et Jacques Rouvier, son maître, par exemple. Quant à l'encadrement des stages d'été proposés aux élèves, ils constituent, dit toujours le rapport, des lieux à haut risque propices aux rapports de séduction, à la promiscuité et aux soirées en présence de drogue et d'alcool. Le protocole pionnier en France, signé au printemps par le parquet et la ville, est censé offrir les moyens de briser l'omerta après une inquiétante série d'agressions commises sur des enfants depuis plus d'un an, impliquant notamment des animateurs de centres de loisirs, des agents de la mairie, mais aussi un professeur de musique des conservatoires révoqué pour avoir eu une liaison de 2 ans avec une élève mineure. Les nouvelles modalités permettront de protéger immédiatement et au mieux les enfants et leurs familles et d'offrir plus de transparence, selon la ville. Elles n'en heurtent pas moins les professeurs et leurs représentants syndicaux. Le parti pris affiché dans ce rapport est parfaitement injurieux, s'agace un professeur d'orgue et de piano. Les rédacteurs de ce texte ignorent, semble-t-il, tout des pratiques pédagogiques qui sont celles des conservatoires. Elles permettent une grande souplesse, l'adaptation au projet individuel de chaque élève. Deux jours plus tard, on lit encore dans Le Parisien que la polémique soulevée par le rapport embarrasse la mairie au point qu'un mail qu'a pu consulter Le Quotidien a même été envoyé par un membre de la direction des affaires culturelles au directeur des conservatoires et aux enseignants pour les inviter à ne pas s'exprimer dans la presse sans autorisation. Ce qui n'a pas empêché le 12 juin, a encore rapporté Le Parisien, environ 80 artistes enseignants mais aussi des parents d'élèves de manifester contre le rapport et le projet de réforme de l'enseignement musical qui prévoit entre autres de supprimer donc les cours individuels. Comment des inspecteurs généraux ont-ils pu produire un travail aussi caricatural, distillant un soupçon généralisé, s'interroge Diapason dans un article non signé, titré « Ce rapport qui voit du sexe partout, la mairie de Paris peut-elle exhiber de tels arguments au bénéfice des cours collectifs dont chacun sait qu'elle veut les promouvoir au nom de la mixité sociale, mais aussi pour des raisons de coût ?» Contraint de réagir pour éteindre l'incendie, l'adjoint à la culture Bruno Julliard s'est défendu dans une lettre au corps enseignant des conservatoires municipaux de vouloir jeter l'anathème sur une profession en particulier et il a assuré que les recommandations de l'inspection générale, qui travaille en toute indépendance, a-t-il souligné, ne conduiraient pas la municipalité à supprimer les cours individuels. La conduire à les préserver serait-ce trop lui demander, car le risque évidemment c'est de se priver de futurs grands interprètes et de laisser la place à d'autres nations. Dans la galaxie pianistique, le centre de gravité de la virtuosité s'est déplacé vers l'Asie, note ainsi Sébastien Porte dans Télérama, comme un écho au Made in China qui a envahi l'économie marchande. Une vague asiatique serait-elle en train de déferler sur le piano contemporain? Un péril jaune, des touches blanches et noires serait-il en train de tailler des croupières à une vieille garde occidentale qui, d'Anton Rubinstein à Hélène Grimaud, tiens, encore elle, aurait trop longtemps monopolisé le clavier? L'image est tentante mais largement fantasmée, estime Télérama. Depuis une dizaine d'années, des noms aux consonances chinoises ou coréennes ont, il est vrai, fleuri dans les programmes des récitals et des concours. Celui de Leeds, par exemple, l'un des plus prestigieux concours internationaux de piano, fait ainsi monter 2 à 3 Asiatiques sur les marches de son podium à chaque édition depuis 2003, alors qu'entre 1963 et 2000, on en comptait en moyenne qu'un tous les 2 millésimes. Ils sont les représentants d'une école qui privilégie la rigueur, la discipline et l'endurance dans l'apprentissage dès le plus jeune âge. Pour autant, parler d'une relève asiatique en coupe réglée serait aller vite en besogne, d'autant que la plupart de ces produits made in Asia poursuivent en général leur formation en Amérique ou en Europe. Et pour un géant démographique comme la Chine, où l'on recense selon les sources entre 20 et 50 millions de pianistes amateurs, rien d'étonnant si de temps à autre de gros poissons émergent du vivier, dont certains sont aussi devenus de vrais produits marketing formatés pour oreilles occidentales. Mais nous au moins, nous protégeons nos enfants.
Merci Antoine Guillot. C'est vrai qu'on a parlé de cette question des conservatoires il y a 2 semaines, parce que là, l'heure est grave. Votre sentiment, Emmanuel Giuliani?
Je ne sais pas si on peut parler de sentiment. C'est oui, en tous les cas, cette polémique est absolument absurde. Ah, on supprime tout enseignement de toute façon, parce que la musique, mais évidemment le sport, mais toutes les matières académiques. Enfin, on n'a plus aucune relation entre adultes et puis jeunes, et voilà, et on résout le problème. Enfin, on arrive à des choses absolument délirantes. Bon, il y a aussi le qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Hein, ça ressemble beaucoup à ça. Mais et puis cette suspicion qu'on se met à avoir au fur et à mesure des affaires entre guillemets de cette espèce de sinon haine en tous les cas méfiance et rejet de la musique dite classique par une municipalité qui visiblement a des comptes à régler avec elle.
Ouais.
C'est un peu étrange.
Puis la suppression de cours individuels, on est quand même sur des choses qui sont des fondements même de l'apprentissage. Enfin, des cours collectifs sont évidemment pas de même teneur que des cours individuels, Emmanuel Dupuis.
Oui, exactement. De toute façon, bon, ça fait longtemps que la mairie de Paris veut supprimer ses cours individuels. Donc là, voilà, on cherche de nouveaux arguments, y compris les plus
bas.
Les plus bas,
les plus dégueulasses.
Voilà, c'est avec en plus des références à Hélène Grimaud et son professeur Jacques Rouvier. Enfin, bon, c'est C'est du niveau de Voici le Closer.
C'est accablant.
Quoi. C'est une feuille de chou, quoi. C'est pas un rapport de sérieux, quoi. Et c'est accablant. Et effectivement, la mairie de Paris, décidément, n'en rate pas une. De toute façon, on sent depuis plusieurs années que, au sein de cette municipalité, il y a un véritable mépris pour la culture classique, pour la musique classique en particulier. C'est la même mairie qui a quelques mois accusé Henri Dutilleux d'être un fasciste. Mmh. Et voilà, et maintenant, on voit dans tous les professeurs de musique des pédophiles en puissance. C'est proprement scandaleux, c'est affligeant, c'est dégueulasse, effectivement, comme vous l'avez dit, Arnaud, très bien.
Oui, il y a des fois des mots qui sont appropriés. Bon, ils ne sont pas à l'écoute a priori, parce qu'ils ne doivent pas écouter une émission consacrée à la musique classique,
uniquement pour se mortifier, peut-être.
Le message passe peut-être. Si on leur faisait un peu écouter de Shostakovich, à l'ombre de Staline, lui, c'est quand même un autre genre de menace, hein, quand même, que celle qu'a connue Shostakovich. Shostakovich à l'ombre de la Staline, c'est le titre de ce double CD dont on avait envie de parler à présent, que le chef d'orchestre letton Andris Nelson consacre au compositeur russe avec l'orchestre symphonique de Boston. Au programme, les symphonies 5, 8 et 9 et la suite pour Hamlet. Avant d'en parler, on va écouter un extrait de cet enregistrement, précisément le début du premier mouvement de la 8e symphonie. pardon d'interrompre Shostakovich. Ce soir, on interrompt les musiques. Bon, ça ne nous arrive pas souvent, mais sinon on l'écouterait bien en entier, mais on a surtout envie peut-être de dire à nos auditeurs de se procurer ce disque, Emmanuel Dupuis.
Ce qui frappe, et même dans le court extrait que l'on a entendu, c'est d'abord la perfection de l'orchestre de Boston. Pour le coup, le fini instrumental est vraiment extraordinaire. Et puis il y a cette couleur, toujours cette couleur claire, lumineuse. On dit souvent que l'orchestre de Boston est le plus français des orchestres américains. C'est sûrement un héritage de l'époque où Pierre Monteux le dirigeait. Et c'est vrai que cette caractéristique persiste. Mais bon, alors évidemment, le risque, c'est que cette perfection prive cette musique d'une certaine âpreté, une âpreté que l'on peut entendre dans les versions plus anciennes, de celle de Mravinsky, par exemple, avec des orchestres russes. Alors, c'est en partie vrai, mais en même temps, il y a toujours, malgré tout, dans la direction d'Andres Nelsons, une tension, une tension permanente qui maintient le côté haletant et le caractère tragique de ses œuvres. Voilà, et en même temps, mais rien ne pèse. Ce qui peut paraître pompier sous d'autres baguettes, par exemple le final de la 5e symphonie, là c'est allégé, tout ça avance de façon très naturelle, les mouvements lents, comme cet adagio de la symphonie numéro 8, les mouvements lents sont magnifiques, d'une délicatesse extrême. Le caractère décalé, ironique de la 9e symphonie est parfaitement rendu. Donc voilà, au final c'est une très grande réussite, et je dirais que la première vertu peut-être de ce double album, c'est de rendre cette musique universelle, c'est-à-dire ce que l'on perd peut-être en âpreté, comme je disais tout à l'heure, on le gagne en universalité, et donc c'est une vertu essentielle, je trouve.
Emmanuel Giuliani.
Oui, je ne vois pas très bien quoi ajouter, parce que Emmanuel a dit vraiment des choses que j'éprouve tout à fait. Dans cette universalité, on sent aussi, grâce justement à cette clarté, cette patte merveilleuse, très transparente, et à la fois avec beaucoup de substance et de chair de l'orchestre et la direction très souple, très fluide et à la fois très articulée d'Andres Nelsons, on sent bien comment Shostakovich est à la fois et surtout particulièrement dans ses œuvres, de manière un peu brève, dans la modernité et le lien avec toute l'histoire de la musique. C'est-à-dire que les aspects, tout ce que Shostakovich doit au classicisme et au romantisme, on le sent particulièrement grâce justement à cette transparence, à cette manière très très polissée et très élégante de jouer, mais aussi parce que c'est incroyablement précis, très conduit. On voit combien c'est également un musicien très important pour le XXe siècle. Et donc je trouve que cette double dimension historique de Shostakovich est particulièrement présente avec ce type d'interprétation. Ouais. Et ça, c'est vraiment précieux. Et grâce aussi à cette qualité sonore et de conduite de la ligne, ce que vous avez dit, Emmanuel, à savoir le désespoir qui est toujours là sous la bonne humeur apparente, le sarcasme, mais qui laisser place aussi au lyrisme, enfin toutes ces contradictions permanentes, et qui sont justement parce que à l'ombre de Staline, on fait semblant de se soumettre, mais intérieurement on continue à être déchiré, à bouillonner intérieurement, et le désespoir l'emporte, mais avec ce vernis de bonne humeur, et ça on le sent vraiment comme quand on était en cours de technologie et qu'on devait faire une coupe transversale d'un objet, on a chaque strate, et ça c'est vraiment extraordinaire. Sans qu'on se dise, on fait une écoute analytique. Le bonheur de l'écoute est là. Et en même temps, tout ça marche et active tous ces rouages de la perception. Et ça, c'est vraiment impressionnant et délectable.
Oui, parce que c'est une sensualité inquiète ou une inquiétude sensuelle aussi. Enfin, est vraiment dans les doubles tensions à chaque fois.
Hein. Mais cette sensualité inquiète, elle est propre à la musique de Shostakovich.
Oui, mais elle est très très bien rendue.
Et là, effectivement, elle est très très bien rendue. Il y a une espèce de... Tout est à fleur de peau, en quelque sorte. Je veux dire, tellement chaque détail est travaillé, mais en même temps, oui, comme l'avait dit Emmanuel, ça n'est pas du tout une lecture analytique. Chaque détail est travaillé, en même temps, ça s'inscrit dans un tout. Et il y a un véritable discours musical qui avance et une véritable construction de ces œuvres symphoniques. Donc oui, c'est extrêmement extrêmement satisfaisant. Il faut préciser que ce ne sont pas des enregistrements de studio. Ce sont des enregistrements sur le vif, et atteindre une telle perfection en concert, ben, je veux dire, moi,
pour ce double CD Shostakovich avec des symphonies numéro 5, 8 et 9 et la suite pour Hamlet, direction musicale Andris Nelsons avec donc l'orchestre de Boston, c'est chez Deutsche Grammophon, à se procurer donc d'urgence, vous l'avez compris. Dans quelques minutes, nous parlerons de l'opéra de Puccini, Janis Kiki, mise en scène par Woody Allen, sorti en DVD. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute, la comédienne et chanteuse Camélia Jordana. Pour retrouver son actualité, vous allez sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanteur, comment allez-vous? Très bien, merci.
Camélia Jordana, alors l'actualité, l'info, c'est qu'on a vu que l'ensemble intercontemporain vous a adoubé.
Oui.
Vous faites officiellement partie du, comment ça s'appelle, le comité de...
Intercontemporain.
Ouais, le comité.
Ouais. Mais pour l'instant, je vous avoue que c'est assez abstrait pour moi.
Oui,
c'est
tout nouveau.
Voilà, c'est vraiment tout nouveau. Il n'y a pas encore eu de
réunion.
De réunion et tout ça. Je suis très touchée et super... Je sais pas, je trouve ça...
Mais c'est bon signe. Alors, bon, c'est bien pour vous, mais c'est bon signe pour eux. Moi, c'est un ensemble, évidemment, qui est très important. Ici, dans ce pays, et puis au-delà. Mais on a su que vous aviez un goût particulier pour une musique dite savante, vous qui venez d'une musique dite populaire.
Ouais, c'est marrant. Non, mais c'est marrant. Je sais pas. Ça m'amuse beaucoup. C'est pour ça aussi, ça m'a vachement touchée, étonnée, parce que, oui, comme vous dites, moi, je viens d'une émission populaire, je faisais de la musique populaire. Alors, c'est vrai que bon, heureusement pour moi, je fais vraiment mille autres choses, parce que si je devais vivre que de mes albums, ce serait compliqué. Mais du coup, voilà, je participe à plein de projets très, très différents et très, voilà. Et en fait, c'est vrai que du coup, si je regarde ne serait-ce que mon planning, par exemple, c'est vrai qu'il y a des rendez-vous, ne serait-ce qu'en termes de lieux, entre la Cité de la Musique, la Maison de la Poésie, enfin la Philharmonie, comme on dit maintenant, la Gaîté Lyrique, le 104. En effet, ce sont des lieux qui sont vraiment dans quelque chose de très concret, ancré dans quelque chose d'actuel, de moderne, et tourné plutôt vers le futur, on va dire. Et ce sont des modes qui m'intéressent beaucoup. Et moi-même, d'ailleurs, en musique, j'essaie d'aller beaucoup plus vers ça pour la suite de mes projets. Donc oui, du coup, ça m'amuse assez et ça me touche beaucoup, quoi, qu'on me propose de faire partie de ça. Et je trouve ça chouette, en plus, du coup, que de voir que dans cet ensemble-là, où c'est vrai que de loin, on pourrait imaginer quelque chose d'assez classique, donc classique peut-être, de manière un peu péjorative, un truc un peu poussiéreux. Et non, apparemment pas. Et du coup, moi, je trouve ça chouette, en effet, qu'ils prennent quelqu'un de mon âge, de ma génération, avec mon parcours, sans pourtant que ce soit moi, je veux dire, je suis pas en train de m'envoyer des fleurs, mais dans l'absolu, qu'on prenne quelqu'un de ma génération pour faire partie de ce comité-là, je trouve que c'est une chouette démarche.
Ouais, c'est une bonne nouvelle pour eux, je le disais. Mais au-delà de l'ensemble intercontemporain, vous allez passer de bons moments, on n'en doute pas. J'allais vous demander quelle place a la musique dans votre vie. Alors, j'imagine qu'elle est immense, mais quelle place pour la musique des autres, et quelle musique est-ce que, voilà, vous écoutez toute la journée, il y a toujours un casque à l'oreille, ou est-ce qu'il y a des moments de rituel chez vous? Comment vous tenez au courant de ce qui arrive? Comment ça se passe concrètement?
J'écoute plutôt au studio quand je travaille, ou au studio des copains, quand je passe embrasser les copains au studio. Ça représente une bonne partie de la musique que j'écoute, je crois. Et après, en termes de genre, j'écoute... Ça fait maintenant... Oui, ça doit faire un an que j'écoute beaucoup de hip-hop. Et ces derniers temps, j'écoute un peu d'électro. Je me mets à écouter des gens... Que les gens qui écoutent de l'électro, s'ils m'entendent, ils vont rigoler. Ils vont dire, ah, mais elle dort depuis un petit moment. Mais voilà, je commence à écouter des gens, je sais pas, comme des DJ Snake ou des Disclosure ou des trucs comme ça. Et du coup, j'écoute des points-points et j'écoute les compiles des points-points, genre Filet Mignon qui est sorti il y a quelques jours et ce genre de choses. Voilà, je me mets à écouter ça, mais en parallèle, j'écoute quand même vraiment pas mal de hip-hop, je crois. Vraiment.
Alors quoi, depuis hip-hop? Vous avez repris les fondamentaux, vous êtes remonté WA jusqu'à nos jours?
Je suis vraiment dans un mood de kids en ce moment. Bah, en même temps, on se retrouve avec des mecs comme Vince Staples, qui a, il a un an de moins que moi.
Enfin, ça va commencer à vous faire drôle, oui.
Pardon, mais enfin, voilà.
Il y en a des plus jeunes que vous, ça
ouais,
y est.
Ouais, ça y est, quoi. Ce qui est super, moi, ça me rassure vachement. Et en même temps, je trouve ça incroyable, enfin, c'est génial. Même des mecs comme des Jamie XX ou des Kendrick Lamar, ou des... Enfin, c'est des kids, enfin, ils ont moins de 30 ans, quoi. Et font la musique qu'ils font, ça me fait halluciner. Donc, ouais, après Kendrick, et puis entre-temps... ouais, je sais pas. Oui, des trucs comme Vince Staples, Lil Sims, récemment. Pareil, je me mets vraiment à découvrir des kids, mais qui sont déjà des classiques pour d'autres. Genre des House Sweatshirt et des... Enfin, toute cette bande-là, justement. Des... Mais là, je crois que ça y est, j'ai un peu envie de retourner un truc un peu plus organique. Parce que ça fait un an que j'écoute beaucoup de machines. Du coup, ouais, j'ai très envie ces derniers temps de revenir à un truc assez organique avec des humains et des instruments. Et voilà. J'ai pas très envie d'écouter du jazz en ce moment. Même si j'invite tout le monde à écouter le super album Hommage à Chet Baker qui vient de sortir. Mais. Ouais, là j'ai envie de douceur et de chaleur et de rondeur, mais humaine, pas machinale, ouais. Pas électronique en tout cas, ces derniers temps. Mais en vrai, j'écoute que ça pour l'instant, donc il faut que j'arrive à trouver l'artiste qui va me faire switcher. Il y a un morceau de Sun Little que j'adore, le premier de l'album, je sais plus comment il s'appelle, Goen, je crois, mais je suis pas sûre, que je trouve mais magnifique. Mais c'est quand même un délire avec une voix trafiquée, beaucoup de voix, des harmonies, un truc qui pourrait être presque a cappella, peut-être. Voilà, là, c'est un peu le pont entre l'homme et la machine. Voilà, c'est de la voix un peu trafiquée quand même, avec des harmonies très belles qui crèvent le cœur. Mais quand même, c'est que quelqu'un qui chante. Donc voilà, je vais essayer de trouver... je suis sur la route, quoi.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée le jeudi soir à la musique avec une sortie en DVD, celle de l'opéra en un acte, Janis Kiki de Giacomo Puccini, mise en scène par Woody Allen pour l'opéra de Los Angeles avec Placido Domingo dans le rôle titre, tout cela pour célébrer les 30 ans de la maison d'opéra Angeline, filmée en septembre dernier, une production qui connaît donc une sortie en DVD et Blu-ray chez Sony Classical. Nous en écoutons tout de suite un extrait.
Laudato Dio. Item vuoi, signori. Se i quattrini di Buoso potevan finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, così sia. Ma, con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.
Et voilà, on a eu la fin, hein, si on s'est diverti, tout s'est bien passé, de Janis Kiki. Alors, il faut dire que quand Placido Domingo entre en scène, c'est comme au boulevard, il peut y avoir de la musique, les gens applaudissent dans la salle, c'est ce qu'on voit notamment dans ce DVD, Emmanuel Dupuis.
Oui, le public américain est très bon public, puisqu'il est, non seulement il applaudit l'entrée en scène de Placido Domingo, mais il applaudit aussi le décor quand Pedro s'ouvre.
C'est vrai.
Parce qu'effectivement, on voit un décor assez spectaculaire avec une vue panoramique de Florence et un décor assez bien fichu d'ailleurs parce que à court, on a la chambre de Janis Kiki où va se passer l'action principale et à jardin, un escalier qui monte sur une galerie, ce qui permet à certains personnages à certains moments de s'échapper. Et c'est, bon, tout ça crée une occupation de l'espace assez. Assez fine, c'est bien fichu. De toute façon, le spectacle est bien fichu dans l'ensemble. Même si, bon, il faut dire quand même que Janis Kiki, c'est un véritable bijou. Quoi. C'est une mécanique comique parfaitement huilée, une partition fabuleuse. Donc, on voit mal comment on peut rater, mais quoi qu'on n'ait jamais la vraie.
Dites pas des choses pareilles.
Mais, en tout cas, Woody Allen ne rate pas du tout sa mise en scène, qui est sa première mise en scène lyrique.
C'est une toute petite œuvre, hein. c'est moins d'une heure.
Oui, c'est moins d'une heure, mais
il faut la faire.
Mais voilà,
vivre.
Surtout, bon, Woody Allen, c'est un magicien de la direction d'acteur, et ça se sent à chaque instant. Quoi. Je veux dire, il y a une précision du jeu d'acteur, mais chez le moindre petit rôle, il y a plein de.
Puis ça n'arrête pas.
Hein. Dans Janis Kiki, ça n'arrête pas. Il y a des gags, mais jamais trop appuyés, toujours bien amenés. Il y a juste une idée à la fin, je ne sais pas si on peut la révéler.
C'est que
Zita, donc une héritière qui a été flouée par Janis Kiki, revient en scène à la toute fin de l'opéra et poignarde Janis Kiki. J'ai pas été convaincu par ce châtiment final que je trouvais un brin moralisateur. Je vois pas trop ce que ça apporte. C'est un petit peu dommage, quoi. Mais
ouais. Oui, mais enfin, d'autant qu'il se relève pour effectivement déclamer ce qu'on vient d'entendre. Si tout le monde est amusé, c'est l'essentiel.
C'est vrai.
C'est une mort quand même farcesque, elle aussi.
Oui, mais je vois pas trop ce que ça apporte, en fait. Mais globalement, c'est quand même un bonheur, tout ça, même si c'est un spectacle quand même assez conventionnel. Je veux dire, la seule originalité, c'est que nous ne sommes plus à l'époque de la Divine Comédie de Dante, mais dont le livret est tiré. Mais nous sommes dans l'Italie de l'après-guerre. Et effectivement, c'est un univers qui évoque beaucoup le cinéma italien de l'après-guerre, d'autant que juste avant le lever du rideau, sur les rideaux est projeté un générique fantaisiste.
Oui.
Donc voilà, on est dans ces références-là. C'est finalement très réjouissant, quoi. Voilà, dans l'ensemble.
Emmanuel Giuliani.
Oui. Alors, le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'on n'ait pas demandé à Woody Allen de filmer la captation. Parce que, évidemment, ça aurait vraiment, sans doute été mieux. Parce que, notamment, ce qui, grâce à ce décor, à ce dispositif et à cette direction d'acteur dont vous avez parlé, en permanence, les personnages, qu'ils soient sur le devant de la scène ou qu'ils ne chantent pas, qu'ils soient en arrière, sont toujours dans l'action. Ils se mêlent une myriade de lieux d'action et d'intrigue à l'intrigue principale. Et donc là, la caméra, honnête, mais sans doute un peu pataude par rapport à ce qu'aurait été évidemment celle de Woody Allen, permet de voir une partie de ce qu'il nous a donné, mais pas tout. Et notamment, c'est frustrant quand on entend le public rire, la caméra pointait quelque chose qui n'était pas particulièrement drôle. On se dit, mince, j'ai manqué ce qui se passait à gauche, à droite et qui devait devait être... Voilà, donc je pense que si Woody Allen fait d'autres mises en scène, j'espère que les directeurs de maisons de disques, de DVD, etc., lui proposeront de filmer lui-même.
Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il faut... Quand voilà. Tu fais des mises en scène, c'est qu'il faut vraiment être dans la salle, parce que oui. C'est que dans la salle qu'on peut justement oui. avoir ce regard qui va où il veut.
Exactement, enfin,
les propositions sont multiples. C'est toujours très compliqué à filmer ce genre de mise
oui,
en scène
bien sûr,
très riche.
Bien sûr. Et surtout qu'on a dans les détails des costumes, dans un jeu sur le noir et blanc, parce que c'est très cinématographique. Mmh. Alors c'est vrai que ça évoque le cinéma italien, mais on peut pas s'empêcher de
noir
penser
aussi, hein.
Et puis aussi à son cinéma. On pense à Radio Days, on pense, voilà, il y a des silhouettes qui sont vraiment très alléniennes, même au dernier film, à son dernier film. Donc c'est vrai que c'est très, très plaisant pour cela. Et musicalement, ça tient bien la route. Hein.
Tout à fait.
Et on vient d'entendre là le couple des jeunes amoureux de Loretta et Rinuccio qui sont très charmants et à voir et à entendre. Placido Domingo, il s'en donne à cœur joie.
Oui. Il est Placido Dominguesque.
Il est Placido Dominguesque, mais c'est très bien.
Ouais.
Mais c'est, voilà.
Même si... moi je suis toujours un petit peu gêné parce que c'est pas parce que quand on est ténor, c'est pas parce qu'on perd la tierce supérieure qu'on devient baryton. Donc c'est plus un ténor, mais c'est pas vraiment un baryton. Mais en même temps, c'est une telle bête de scène. Et puis on voit qu'il prend un tel plaisir
et qu'il entraîne les autres
qu'il finit par casser la baraque. Et à 75 ans, c'est quand même assez fabuleux, quoi.
Et puis cette autodérision qu'il a par rapport au personnage qu'il a pu faire, il nous fait, de même que Giannis Kiki fait un clin d'œil à plein d'opéras de Puccini, là Domingo fait un clin d'œil à son personnage à Bleur et de voilà, jeune premier qui n'en est plus un et qui est obligé maintenant de devenir un filou pour pouvoir occuper le devant de la scène. Ce qui fait que cette mort, finalement, est-ce qu'on ne tue pas, comme dans tous les opéras, le grand héros d'opéra? Maintenant, je me dis, il y a peut-être ça. Voilà, comme toujours... À l'opéra, il faut que ça se termine par une mort. Ben, en voilà une, même si elle n'est pas très sérieuse.
Non, elle n'est pas très sérieuse. Mais
voilà, c'est
que
peut-être ça, finalement.
Musicalement, c'est quand même très, très réjouissant.
C'est très bien fichu.
Très bien dirigé.
C'est très bien dirigé.
C'est Grant Gershon
qui parvient à alléger l'orchestration boutchienne qui parfois peut être un peu lourdingue, mais là, pas du tout. C'est très léger.
C'est très enlevé.
C'est très beau aussi. Ça pétille. Tous les petits rôles sont très bien distribué, avec une mention particulière pour Zita, qui est jouée par Meredith Awodi, qui a quand même un abattage et une opulence vocale et physique assez fabuleuse. Et puis mention particulière également pour Andriana Schuschmann, qui chante Loretta, et donc qui chante le tube au mio babbino, caro, qui elle le chante très bien, avec une très jolie voix, un très joli phrasé, et en plus...
Elle a un très joli physique.
Elle a vraiment un physique de bimbo, quoi.
Donc,
je pense qu'on entendra encore parler de cet artiste.
Elle a une voix un peu à la Frénie.
Il y a quelque chose qui est très... Le compliment n'est pas mince.
Oui. Mais vraiment, c'est très, très, très séduisant.
Bon, mais voilà, pour passer un moment réjouissant, voir ce DVD de Giannis Kiki de Puccini, mise en scène Woody Allen, direction musicale Grant Gershon, c'est sorti chez Sony Classical.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et avant de finir tout à fait cette émission, le jeu de la dispute, en commençant par un retour sur le jeu d'hier au soir, Antoine Guillot.
Vous avez gagné des invitations pour le premier film de Grégoire Le Prince Ringuet, La Forêt de Quinconce, sorti hier dans les salles. Je vous avais demandé de qui sont ces vers qu'on entend dans le film, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas. Vous aurez reconnu Paul Valéry, ça sort des pas, les pas de Paul Valéry.
Ce soir, nous faisons gagner d'autres places de cinéma pour le film, cette fois Insiang de Lino Broca. La question:
à quelle religion Lino Broca s'est-il converti après ses études?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Emmanuel Giuliani, Emmanuel Dupuis, Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également vous abonner au podcast de cette émission. La dispute est possible grâce à Séam Boutata, Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot et Virginie Ledio qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. Prise de son assurée ce soir par Philippe Mercher, réalisation signée Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Philippe Chevillier et Daniel Martin. À notre sommaire, Les Maraudeurs de Tom Cooper, Topaz, tout compris, de Hakan Gündey. Nous évoquerons aussi plus rapidement Jour de miel de Eshkol Nevo et La pièce de Jonas Carlson. Nous retrouverons Antoine Guillot pour une nouvelle revue de presse culturelle. Nous retrouverons Camélia Jordana pour ses choix en littérature. Et puis il y aura un nouveau cadeau à gagner avec le jeu de la dispute. Tout cela c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, hors champ par Laure Adler. Et dans quelques instants, le journal de la rédaction.